Les affranchis. Comme nous avons consacré deux chapitres distincts aux anciens et aux modernes, on pourrait juger convenable que nous en consacrions spécialement un aux affranchis, comme aux représentants d'un troisième moment de l'évolution de la pensée humaine. Mais il n'en est rien. Les affranchis ne sont que des modernes, les plus modernes d'entre les modernes. Si nous leur faisons l'honneur d'une étude à part, c'est uniquement parce qu'ils sont le présent et que le présent mérite avant tout de fixer notre attention. J'emploie le nom d'affranchi comme un synonyme de libéraux, mais je dois remettre à plus tard l'examen de l'idée de liberté, comme de plusieurs autres d'ailleurs, auxquels je ne pourrais non plus éviter de faire dès à présent allusion. Le libéralisme politique. Au XVIIIe siècle, lorsqu'on eut vidé jusqu'à la lie la coupe du pouvoir dit absolu, on s'aperçut trop nettement que le breuvage qu'elle offrait aux hommes ne pouvait être de leur goût, pour ne pas sentir le désir de boire à un autre verre. Étant des hommes, nos pères voulurent être considérés comme des hommes. Quiconque voit en nous autre chose, nous le regardons comme étranger à l'humanité, inhumain. Pourquoi le traiterions-nous humainement ? Celui, au contraire, qui reconnaît en nous des hommes et nous garantit contre le danger d'être traité autrement que des hommes, nous l'honorons comme notre soutien et notre protecteur. Unissons-nous donc et soutenons-nous mutuellement. Notre association nous assure la protection dont nous avons besoin, et nous, les associés, formons une communauté dont les membres reconnaissent leur qualité d'homme et dont ce nom d'homme est le signe de ralliement. Le produit de notre association est l'État. Nous, ses membres, nous formons la nation. En tant que réunis dans la nation ou l'État, nous ne sommes que des hommes. Qu'en outre, en tant qu'individus, nous fassions nos propres affaires et poursuivions nos intérêts personnels, peu importe à l'État. Cela concerne exclusivement notre vie privée. Purement, uniquement humaine est notre vie publique ou sociale. Ce qu'il y a en nous d'inhumain, d'égoïste, doit rester confiné dans le cercle inférieur des affaires privées, et nous distinguons soigneusement l'État de la société civile, domaine de l'égoïsme. Le véritable homme, c'est la nation. L'individu, lui, est toujours un égoïste. Dépouillez donc cette individualité qui vous isole, cet individualisme qui ne souffle qu'inégalité égoïste et discorde, et consacrez-vous entièrement au véritable homme, à la nation, à l'État. Alors seulement vous acquerrez votre pleine valeur d'homme et vous jouirez de ce qu'il appartient à l'homme de posséder. L'État, qui est le véritable homme, vous fera place à la table commune et vous conférera les droits de l'homme, les droits que l'homme seul donne et que seul l'homme reçoit. Tel est le principe civique. Le civisme, c'est l'idée que l'État est tout, qu'il est l'homme par excellence et que la valeur de l'individu comme homme dérive de sa qualité de citoyen. À ce point de vue, le mérite suprême est d'être bon citoyen. Il n'est rien de supérieur, à moins que le vieil idéal, bon chrétien. La bourgeoisie se développa au cours de la lutte contre les castes privilégiées, par lesquelles elle était, sous le nom de tiers-état, cavalièrement traitée et confondue avec la canaille. Jusqu'alors avait prévalu dans l'État le principe de l'inégalité des personnes. Le fils d'un noble était, de droit, appelé à remplir des charges auxquelles aspiraient en vain les bourgeois les plus instruits, etc. Le sentiment de la bourgeoisie se souleva contre cette situation. Plus de prérogatives personnelles, plus de privilèges, plus de hiérarchie de classe. Que tous soient égaux. Aucun intérêt privé ne peut entrer en ligne de compte avec l'intérêt général. L'État doit être une réunion d'hommes libres et égaux, et chacun doit se consacrer au bien public, se solidariser avec l'État, faire de l'État son but et son idéal. L'État, l'État, tel fut ce cri général. Et dès lors, on chercha à bien organiser l'État, et l'on s'enquit de la meilleure constitution. c'est-à-dire de la meilleure forme à lui donner. La pensée de l'État pénétra dans tous les cœurs et y excita l'enthousiasme. Servir ce Dieu terrestre devint un culte nouveau. L'ère de la politique s'ouvrait. Servir l'État ou la nation fut l'idéal suprême, l'intérêt public l'intérêt suprême. Et jouer un rôle dans l'État, ce qui n'impliquait nullement que l'on fût fonctionnaire, le suprême honneur. Par là, les intérêts privés, personnels, furent perdus de vue, et leur sacrifice sur l'autel de l'État devint un squibolette. Il faut pour toute chose s'en remettre à l'État et vivre pour lui. L'activité doit être désintéressée, n'avoir d'autre objectif que l'État. L'État devint ainsi la véritable personne devant laquelle s'efface la personnalité de l'individu. Ce n'est pas moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. D'où nécessité de bannir l'égoïsme d'autrefois et de devenir le désintéressement et l'impersonnalité même. Devant l'État Dieu, tout égoïsme disparaissait. Tous se trouvaient égaux, tous étaient, sans que rien ne permît de les distinguer les uns des autres, des hommes et rien que des hommes. La propriété fut l'étincelle qui mit le feu à la Révolution. Le gouvernement avait besoin d'argent. Il devait dès lors, pour être logique, montrer qu'il était absolu et par conséquent maître de toute propriété, en reprenant possession de son argent dont les sujets avaient la jouissance, mais non la propriété. Au lieu de cela, il convoqua des états généraux pour se faire accorder l'argent nécessaire. En n'osant pas être conséquent jusqu'au bout, on détruisit l'illusion du pouvoir absolu. Le gouvernement qui doit se faire accorder quelque chose ne saurait plus passer pour absolu. Les sujets s'aperçurent que les véritables propriétaires étaient eux, et que c'était leur argent qu'on exigeait d'eux. Ceux qui n'avaient été jusque-là que des sujets se réveillèrent propriétaires. C'est ce que Bailly exprime en peu de mots. Vous ne pouvez sans mon consentement disposer de ma propriété, et vous disposeriez de ma personne, de tout ce qui constitue ma position morale et sociale. Tout cela est ma propriété, au même titre que le champ que je cultive, c'est mon droit, c'est mon intérêt de faire moi-même les lois. Les paroles de Bailly semblent vouloir dire que chacun est un propriétaire, mais en réalité, au lieu du gouvernement, au lieu des princes, le possesseur et maître fut la nation. À partir de ce moment, l'idéal est la liberté du peuple, un peuple libre, etc. Dès le 8 juillet 1789, les explications de l'évêque d'Autun et de Barère dissipèrent cette illusion que chacun, chaque volonté individuelle, a son importance dans la législation. Elles montrèrent la radicale impuissance des commettants. La majorité des représentants fait la loi. Le 9 juillet, quand vient à l'ordre du jour le projet de la loi sur la répartition des travaux de la Constitution, Mirabeau fait remarquer que le gouvernement dispose de la force et non du droit, que c'est dans le peuple seul que doit être cherchée la source de tout droit. Le 16 juillet, le même Mirabeau s'écrit « Le peuple n'est-il pas la source de toute puissance ? Digne peuple, source de tout droit et de toute puissance ?» Soit dit en passant, on entrevoit ici le contenu du droit. C'est la force, la raison du plus fort. La bourgeoisie est l'héritière des classes privilégiées. En fait, les droits des barons, qui leur furent enlevés comme usurpés, ne firent que retourner à la bourgeoisie qui s'appelait à présent la nation. Tous les privilèges retombèrent dans les mains de la nation. Aussi cessèrent-ils d'être des privilèges pour devenir des droits. Désormais, c'est la nation qui percevra les dîmes et les corvées. C'est elle qui a hérité des droits seigneuriaux, du droit de chasse et des serres. La nuit du 4 août fut la nuit de mort des privilèges. Les villes, les communes, les magistratures étaient privilégiées, dotées de privilèges et de droits seigneuriaux. Et lorsqu'elle prit fin, se leva l'aube du droit, des droits de l'État, des droits de la nation. Le despotisme n'avait été dans la main des rois qu'une règle complaisante et lâche, au prix de ce qu'en fit la nation souveraine. Cette monarchie nouvelle se révéla 100 fois plus sévère, plus rigoureuse et plus conséquente que l'ancienne. Devant elle, plus de droits, plus de privilèges. Combien, en comparaison, paraît tempérer la royauté absolue de l'ancien régime. La Révolution, en réalité, substitua à la monarchie tempérée la véritable monarchie absolue. Désormais, tout droit qui ne concède pas le monarque État est une usurpation. Tout privilège qu'il accorde devient un droit. L'esprit du temps exigeait la royauté absolue, et c'est ce qui causa la chute de ce qu'on avait appelé jusqu'alors royauté absolue, mais qui avait consenti à être si peu absolue qu'elle se laissait renier et limiter par 1000 autorités subalternes. La bourgeoisie a accompli le rêve de tant de siècles. Elle a découvert un maître absolu auprès duquel d'autres maîtres ne peuvent plus se dresser comme autant de restrictions. Elle a produit le maître qui seul accorde des titres légitimes et sans le consentement duquel rien n'est légitime. Nous savons que les idoles ne sont rien dans le monde et qu'il n'y a d'autre Dieu que le seul Dieu. On ne peut plus attaquer le droit, comme on attaquait un droit en soutenant qu'il est injuste. Tout ce qu'on peut désormais dire, c'est qu'il est un non-sens, une illusion. Si on l'accusait d'être au contraire au droit, on serait obligé de lui opposer un autre droit et de les comparer. Mais si l'on rejette totalement le droit en soi, on nie du même coup la possibilité de le violer, et on fait table rase de tout concept de justice, et par conséquent d'injustice. Nous jouissons tous de l'égalité des droits politiques. Que signifie cela? Simplement ceci, que l'État ne tolère nulle acception de personne, que je ne suis à ses yeux, comme le premier venu, qu'un homme, et n'ai aucun autre titre à son attention. Peu lui importe que je sois gentilhomme et fils de noble, peu lui importe que je sois l'héritier d'un homme en place, dont la charge, comme au Moyen-Âge les comtés, etc., et plus tard, sous la royauté absolue, certaines fonctions sociales, me revient à titre héréditaire. Aujourd'hui, l'État a une multitude de droits à conférer, tels par exemple le droit de commander un bataillon, une compagnie, le droit d'enseigner dans une université. Il lui appartient d'en disposer parce qu'ils sont à lui, que ce sont des droits de l'État, des droits politiques. Peu lui importe d'autre part à qui ils échoient, pourvu que le bénéficiaire remplisse les devoirs que lui impose sa fonction. Nous sommes à ce point de vue tous égaux devant lui, et nul n'a plus ou moins de droit qu'un autre, à une place vacante. « Je n'ai pas à savoir, dit l'État souverain, qui exerce le commandement de l'armée, du moment que celui que j'investis de ce commandement possède les capacités nécessaires. » Égalité des droits politiques signifie donc que chacun peut acquérir tous les droits que l'État a à distribuer, s'il remplit les conditions requises, et ces conditions dépendent de la nature de l'emploi et ne peuvent être dictées par des préférences personnelles. Persona grata. Le droit d'être officier, par exemple, exige, de par sa nature, qu'on possède des membres sains et certaines connaissances spéciales, mais ne pose pas comme condition qu'on soit d'origine noble. Si une carrière pouvait être fermée au citoyen le plus apte, ce serait l'inégalité et la négation des droits politiques. De nos États modernes, les uns ont poussé plus loin, les autres moins loin, l'application de ce principe d'égalité. La castocratie, je nomme ainsi la royauté absolue, le système des rois antérieurs à la Révolution, ne subordonne l'individu qu'à de petites monarchies qui sont les confréries corps, corporations, noblesse, clergé, bourgeoisie, villes communes, etc. Partout, l'individu devait avant tout se considérer comme membre de la petite société à laquelle il appartenait et se plier sans réserve à son esprit, l'esprit du corps, comme devant une autorité sans limite. Ainsi, le noble devait regarder sa famille, l'honneur de sa race, comme plus que lui-même. Ce n'est que par l'intermédiaire de sa corporation, de son état, que l'individu se rattachait à la corporation supérieure, à l'État, comme dans le catholicisme, l'individu ne communique avec Dieu que par l'organe du prêtre. C'est à cet état de choses que le tiers-État mit fin, lorsqu'il prit sur lui de nier son existence en tant qu'État séparé. Il résolut de ne plus être un État auprès d'autres États, mais de s'affirmer comme la nation. Par là, il instaura une monarchie bien plus parfaite et plus absolue. Et le principe des castes, jusqu'alors régnant, le principe des petites monarchies dans la grande, s'écroula du même coup. Les castes et leur tyrannie renversée, et le roi n'était que roi des castes et non roi des citoyens, les individus se trouvèrent affranchis de l'inégalité inhérente à la hiérarchie des corps sociaux. Mais les individus, ainsi sortis des castes et des cadres qui les enfermaient, n'étaient-ils réellement plus liés à aucun état, statut ? Étaient-ils détachés du reste ? Non. Si le tiers s'était proclamé nation, c'était précisément afin de ne plus être un État à côté d'autres États, mais pour devenir l'unique État, l'État national, statut. Que devenait par là l'individu ? Un protestant politique, désormais en relation immédiate avec son Dieu, l'État. Il n'appartenait plus comme gentilhomme à la caste noble ou comme artisan au corps des métiers. Il ne reconnaissait plus, comme tous les autres individus, qu'un seul et unique maître, l'État, décernant à tous ceux qui le servaient le même titre de citoyen. La bourgeoisie est la noblesse du mérite. Au mérite, sa couronne est sa devise. Elle lutta contre la noblesse pourrie, car pour elle, laborieuse, ennoblie par le labeur et le mérite, ce n'est pas l'homme bien né qui est libre, ni d'ailleurs moi qui suis libre, est libre celui qui le mérite. Le serviteur intègre de son roi, de l'État ou du peuple dans nos États constitutionnels. C'est par les services rendus que l'on acquiert la liberté, autrement dit le mérite, et ses profits, fût-ce d'ailleurs en servant Mammon. Il faut avoir bien mérité de l'État, c'est-à-dire du principe de l'État, de son esprit moral. Celui qui sert cet esprit de l'État, celui-là, de quelque branche de l'industrie qu'il vive, est un bon citoyen. À ses yeux, les novateurs font un triste métier. Seul le boutiquier est pratique, et c'est le même esprit de trafic qui fait qu'on chasse aux emplois, qu'on cherche à faire fortune dans le commerce, et qu'on s'efforce de se rendre de n'importe quelle façon utile à soi et aux autres. Si c'est le mérite de l'homme qui fait sa liberté, et que manque-t-il à la liberté que réclame le cœur du bon bourgeois ou du fonctionnaire fidèle ? Servir, c'est être libre. Le serviteur obéissant, voilà l'homme libre. Et voilà une rude absurdité. Cependant, tel est le sens intime de la bourgeoisie. Son poète, Goethe, comme son philosophe, Hegel, ont célébré la dépendance du sujet vis-à-vis de l'objet, la soumission au monde objectif, etc. Celui qui s'incline devant les événements et se découvre devant le fait accompli possède la vraie liberté. Et le fait, pour quiconque fait profession de pensée, c'est la raison. La raison qui, comme l'État et l'Église, promulgue des lois générales et fait communier les individus dans l'idée de l'humanité. Elle détermine ce qui est vrai et la règle sur laquelle on doit se guider. Pas de gens plus raisonnables que les loyaux serviteurs, et, avant tous, ceux qui, serviteurs de l'État, s'appellent bons citoyens et bons bourgeois. Sois ce que tu pourras, un Crésus ou un Gueux, l'État bourgeois te laisse le choix, mais aie de bonnes opinions. Ceci, l'État l'exige de toi, et il regarde comme son devoir le plus urgent de faire germer chez tous ses bonnes opinions. Dans ce but, il te protégera contre les suggestions mauvaises. Il tiendra en bride les mal-pensants. Il étouffera leurs discours subversifs sous les sanctions de la censure et des lois sur la presse ou derrière les murs d'un cachot. D'autre part, il choisira comme censeur des gens d'opinion sûre. Et il te soumettra à l'influence moralisatrice de ceux qui sont bien pensants et bien intentionnés. Lorsqu'il t'aura rendu sourd aux mauvaises suggestions, il te rouvrira les oreilles toutes grandes aux bonnes. Avec l'ère de la bourgeoisie s'ouvre celle du libéralisme. On veut instaurer partout le raisonnable, l'opportun. La définition suivante du libéralisme, d'ailleurs tout à son honneur, le caractérise parfaitement. Le libéralisme est l'application du bon sens aux circonstances à mesure qu'elles se présentent. Son idéal est un ordre raisonnable, une conduite morale, une liberté modérée, et non l'anarchie, l'absence de loi, l'individualisme. Mais si la raison règne, la personne succombe. L'art ne fait point que tolérer le lait. Longtemps, il l'a revendiqué comme étant de son domaine et en a fait un de ses ressorts. Le monstre lui est nécessaire, etc. Les libéraux extrêmes vont tout aussi loin sur le terrain de la religion, si loin même qu'ils veulent voir considérer et traiter en citoyen l'homme le plus religieux, c'est-à-dire le monstre religieux. Ils ne veulent plus entendre parler de l'Inquisition, mais nul ne doit se révolter contre la loi raisonnable, sous peine des plus sévères châtiments. Ce que veut le libéralisme, c'est la libre évolution, la mise en valeur non point de la personne ou du moi, mais de la raison. C'est en un mot la dictature de la raison, et en somme une dictature. Les libéraux sont des apôtres, non pas précisément les apôtres de la foi, de Dieu, etc., mais de la raison, leur évangile. Leur rationalisme, ne laissant aucune latitude aux caprices, exclut en conséquence toute spontanéité dans le développement et la réalisation du moi. Leur tutelle vaut celle des maîtres les plus absolus. Liberté politique, que faut-il entendre par là? Serait-ce l'indépendance de l'individu vis-à-vis de l'État et de ses lois? Nullement. C'est au contraire l'assujettissement de l'individu à l'État et aux lois de l'État. Pourquoi donc liberté? Parce que nul intermédiaire ne s'interpose plus entre moi et l'État, mais que je suis directement en relation avec lui, parce que je suis citoyen et non plus sujet d'un autre, cet autre fût-il le roi. Ce n'est pas devant la personne royale que je m'incline, mais devant sa qualité de chef d'État. La liberté politique, maxime fondamentale du libéralisme, n'est qu'une seconde phase du protestantisme, et la liberté religieuse lui fait exactement pendant. En effet, qu'implique cette dernière ? Affranchissement de toute religion ? Évidemment non, mais uniquement affranchissement de toute personne interposée entre le ciel et vous. Suppression de l'intermédiaire du prêtre, abolition de l'opposition entre le laïc et le clerc, et mise en communication directe et immédiate du fidèle avec la religion ou le Dieu. Tel est le sens de la liberté religieuse. On n'en peut jouir qu'à condition d'être religieux. Et loin de signifier irreligion, elle signifie intimité de la foi, commerce immédiat et cœur à cœur avec Dieu. Pour l'affranchi religieux, la religion est une affaire de cœur, c'est son affaire, et il s'y consacre avec une sainte ferveur. Il en est de même de l'affranchi politique. Il prend l'État à cœur, l'État est son affaire de cœur, la première de toutes ses affaires, celle qui entre toutes lui est propre. Liberté politique et liberté religieuse sous-entendent l'une que l'État, là, entre parenthèses mot grec dans le texte, est libre, et l'autre que la religion est libre. De même que liberté de conscience sous-entend que la conscience est libre. Y voir ma liberté, mon indépendance vis-à-vis de l'État, de la religion ou de la conscience serait un contresens absolu. Il ne s'agit point ici de ma liberté, mais de la liberté d'une force qui me gouverne et m'opprime. Ce sont mes tyrans, État, religion ou conscience qui sont libres, et leur liberté fait mon esclavage. Il va de soi qu'ils mettent en pratique, pour me réduire, le proverbe « la fin justifie les moyens ». Si le bien de l'État est le but, le moyen d'y pourvoir, la guerre, se trouve sanctifié. Si la justice est le but de l'État, le meurtre comme un moyen devient légitime et porte le nom sacré d'exécution, etc. La sainteté de l'État déteint sur tout ce qui lui est utile. La liberté individuelle, sur laquelle le libéralisme issu de 89 veille avec un soin jaloux, n'implique nullement la parfaite et totale autonomie de l'individu, autonomie grâce à laquelle tous mes actes seraient exclusivement miens, mais uniquement l'indépendance vis-à-vis des personnes. Posséder la liberté individuelle, c'est n'être responsable envers aucun homme. Si l'on comprend ainsi la liberté, et on ne peut la comprendre autrement, ce n'est pas seulement le maître qui est libre, c'est-à-dire irresponsable devant les hommes, il se reconnaît responsable devant Dieu, mais tous sont libres parce qu'ils ne sont responsables que devant la loi. C'est le mouvement révolutionnaire du siècle qui a conquis cette forme de la liberté, l'indépendance vis-à-vis de l'arbitraire, du tel est notre plaisir. En conséquence, il fallait que le prince constitutionnel dépouillât toute personnalité, toute volonté individuelle pour ne point léser, comme individu, la liberté individuelle d'autrui. La regis voluntas n'existe plus chez le prince constitutionnel, et c'est poussé par un sentiment très juste que tous les princes absolus se défendent contre cette mutilation. Notez que ce sont justement ces derniers qui se prétendent des princes chrétiens, dans le vrai sens du mot. Mais il faudrait pour en être que chacun d'eux devint une puissance purement spirituelle, attendu que le chrétien n'est le sujet que de l'esprit. Dieu est esprit. Cette pure puissance spirituelle, c'est le prince constitutionnel qui seul la représente. La perte de toute signification personnelle l'a si bien spiritualisée qu'on peut avec raison ne plus voir en lui qu'un esprit, l'ombre fantomatique et inquiétante d'une idée. Le roi constitutionnel est le véritable roi chrétien, la stricte conséquence du principe chrétien. La monarchie constitutionnelle a été le tombeau de la domination personnelle, c'est-à-dire du maître capable de vouloir réellement. Aussi y voyons-nous régner la liberté individuelle, l'indépendance vis-à-vis de tout commandement émanant d'un individu et vis-à-vis de quiconque pourrait donner un ordre en disant « tel est notre plaisir ». La monarchie constitutionnelle est la réalisation parfaite de la vie sociale chrétienne, d'une vie spiritualisée. La bourgeoisie est par toute sa conduite foncièrement libérale. Tout empiètement sur le domaine d'autrui lui est odieux. Dès que le bourgeois soupçonne qu'il dépend du caprice, du bon plaisir, de la volonté de quelqu'un, que n'autorise pas une puissance supérieure, il brandit son libéralisme et crie à l'arbitraire. Aussi défend-il énergiquement sa liberté contre ce qu'on appelle décret ou ordonnance. Je n'ai d'ordre à recevoir de personne. Une ordonnance implique que mon devoir peut m'être tracé par la volonté d'un autre homme et nous savons que la loi s'oppose à toute suprématie personnelle. La liberté personnelle ou individuelle, l'indépendance du citoyen vis-à-vis des individus ou des personnes, ne peut exister que si nul ne peut disposer de ce qui est mien et tracer à son gré la limite entre ce qui m'est permis et ce qui m'est défendu. La liberté de la presse est une des conquêtes du libéralisme. Mais s'il combat la censure comme un instrument au service du bon plaisir gouvernemental, il n'éprouve cependant aucun scrupule à exercer à son tour la tyrannie à l'aide de lois sur la presse. D'où il appert que, si les libéraux tiennent à la liberté de la presse, c'est pour eux, leurs écrits, ne sortant pas de la légalité, ne risquent pas de tomber sur le coup de la loi. Ce qui est libéral, c'est-à-dire légal, peut seul être imprimé, pour le reste, gare au délit de presse. Et oui, la liberté de la presse est assurée. La liberté personnelle est garantie. Cela saute aux yeux, mais ce qu'on ne voit pas, c'est que la conséquence de toutes ces libertés est un criant esclavage. Fini des ordonnances, fini du bon plaisir et de l'arbitraire. Nous n'avons plus d'ordre à recevoir de personne, et nous n'en sommes que plus étroitement asservis à la loi. Nous sommes les forçats du droit. Il n'y a plus dans l'État que des gens libres qu'oppriment mille contraintes, respect, conviction, etc. Mais qu'importe, celui qui les écrase s'appelle l'État, la loi, et jamais un tel ou un tel. D'où vient l'hostilité acharnée de la bourgeoisie contre tout commandement personnel, c'est-à-dire n'émanant point des faits, de la raison, etc. C'est qu'elle ne lutte que dans l'intérêt des faits, contre la domination des personnes. Mais l'intérêt de l'esprit, c'est le raisonnable, le vertueux, le légal, etc. C'est là la bonne cause. La bourgeoisie veut un maître impersonnel. Voici d'ailleurs le principe. L'intérêt des faits doit seul gouverner l'homme, notamment l'intérêt de la moralité, de la légalité, etc. Aussi, nul ne peut-il être lésé dans ses intérêts par un autre, comme c'était le cas jadis par exemple, lorsque les charges nobles étaient fermées aux bourgeois, les métiers fermés aux nobles, etc. Que la concurrence soit libre, et si quelqu'un est lésé, ce ne pourra plus être que par un fait et non par une personne. Le riche, par exemple, opprime le pauvre par l'argent, qui est un fait. Il n'y a donc plus qu'un seul maître, l'autorité de l'État. Nul n'est personnellement le maître d'autrui. Dès sa naissance, l'enfant appartient à l'État. Ses parents ne sont que les représentants de ce dernier, et c'est lui, par exemple, qui ne tolère pas l'infanticide, qui vaque aux soins du baptême, etc. Aux yeux paternels de l'État, tous ses enfants sont égaux, égalité civique ou politique, et libres d'aviser aux moyens de remporter sur les autres, ils n'ont qu'à concourir. La libre concurrence n'est rien d'autre que le droit que possède chacun de prendre position contre les autres, de se faire valoir, de lutter. Le parti de la féodalité s'est naturellement défendu contre elle, son existence n'étant possible que par la non-concurrence. Les luttes de la Restauration en France n'avaient pas d'autre objet. La bourgeoisie voulait la concurrence libre, l'aristocratie cherchait à restaurer le système corporatif et le monopole. Aujourd'hui, la concurrence est victorieuse, comme elle devait l'être, dans sa lutte contre le système corporatif. Voir la suite plus loin. La révolution a abouti à une réaction, et cela montre ce qu'était en réalité la révolution. Toute aspiration aboutit en effet à une réaction lorsqu'elle fait un retour sur elle-même et commence à réfléchir. Elle ne pousse à l'action qu'aussi longtemps qu'elle est une ivresse, une irréflexion. La réflexion, tel est le mot d'ordre de toute réaction, parce que la réflexion pose des bornes et dégage du déchaînement et du dérèglement primitif le but précis qu'on a poursuivi, c'est-à-dire le principe. Les mauvais sujets, les étudiants tapageurs et mécréants, qui bravent toutes les convenances, ne sont à proprement parler que des philistins. Comme ces derniers, ils ont pour unique objectif les convenances. Les braver par fanfaronnade, comme ils le font, c'est encore s'y conformer, c'est, si vous voulez, s'y conformer négativement. Devenus philistins, ils s'y soumettront un jour et s'y conformeront positivement. Tous leurs actes, toutes leurs pensées, aux uns comme aux autres, visent à la considération. Mais le philistin est réactionnaire comparé au garnement. L'un est un mauvais sujet rassis venu à récipiscence, l'autre est un philistin en herbe. L'expérience journalière démontre la vérité de cette remarque. Les cheveux des pires mauvais sujets grisonnent sur des crânes de philistins. Ce qu'on appelle en Allemagne la réaction apparaît également comme le prolongement réfléchi de l'accès d'enthousiasme provoqué par la guerre pour la liberté. La révolution n'était pas dirigée contre l'ordre en général, mais contre l'ordre établi, contre un état de choses déterminé. Elle renversa un certain gouvernement et non le gouvernement. Les Français ont, au contraire, été depuis écrasés sous le plus inflexible des despotismes. La Révolution tua de vieux abus immoraux, pour établir solidement des usages moraux, c'est-à-dire qu'elle ne fit que mettre la vertu à la place du vice. Vice et vertu diffèrent, comme le mauvais sujet et le philistin. Jusqu'à ce jour, le principe révolutionnaire n'a pas changé. Ne s'attaquer qu'à l'une ou l'autre institution déterminée, en un mot, réformée. Plus on a amélioré, plus la réflexion qui vient ensuite met de soin à conserver le progrès réalisé. Toujours un nouveau maître est mis à la place de l'ancien. On ne démolit que pour reconstruire, et toute révolution est une restauration. C'est toujours la différence entre le jeune et le vieux philistin. La révolution a commencé en petite bourgeoise par l'élévation du tiers-état, de la classe moyenne, et elle monte en graine sans être sortie de son arrière-boutique. Celui qui est libre, ce n'est pas l'homme en tant qu'individu, et lui seul l'homme, mais c'est le bourgeois, le citoyen. L'homme politique, lequel n'est pas un homme, mais un exemplaire de l'espèce bourgeoise, un citoyen libre. Dans la Révolution, ce ne fut pas l'individu qui agit et dont l'action eut une valeur historique, mais un peuple. La nation souveraine voulut tout faire. C'est une entité artificielle, imaginaire, une idée. La nation n'est rien de plus, qui s'y révèle agissante. Les individus n'y sont que les instruments au service de cette idée et ne sortent pas du rôle de citoyen. La bourgeoisie tient sa puissance et en même temps ses limites, de la constitution de l'État, d'une charte, d'un prince légitime ou légitimé qui se dirige et qui gouverne d'après des lois raisonnables, bref, de la légalité. La période bourgeoise est dominée par l'esprit de légalité d'importation anglaise. Une réunion des États, par exemple, n'oublie jamais que ses droits ne sont pas illimités, qu'on lui a fait une grâce en la convoquant, et qu'une disgrâce peut la dissoudre. Elle ne perd jamais de vue le but de sa convocation, sa vocation. On ne peut en vérité pas nier que mon père m'a engendré, mais aujourd'hui que c'est chose faite. Les intentions qu'il avait en procédant à cette opération ne me regardent plus, et quel que soit le but dans lequel il m'a appelé à la vie, je fais ce qu'il me plaît. De même, les États généraux convoqués au début de la Révolution française jugèrent très justement qu'une fois réunis, ils étaient indépendants de celui qui les avait convoqués. Ils existaient, et ils eussent été bien bêtes de ne pas faire valoir leur droit à l'existence et de se croire à la merci de leur père. Celui qui est convoqué n'a plus à se demander « Que voulait-on de moi en m'appelant ?»« Mais bien, que veux-je maintenant que je suis présent à l'appel ?» Ni l'auteur de la convocation, ni la charte en vertu de laquelle on l'a appelé, ni ses commettants, ni ses cahiers, rien n'est pour lui une puissance sacrée, soustraite à ses atteintes. Il est autorisé à tout ce qui est en son pouvoir. Il ne reconnaîtra aucun mandat impératif ou restrictif, et ne prétendra pas à être loyal, rester dans la légalité. La conséquence de ceci serait, si toutefois on pouvait attendre d'un Parlement rien de pareil, de nous donner des chambres parfaitement égoïstes, dont le cordon ombilical moral serait coupé, et qui ne garderait plus aucun ménagement. Mais les chambres sont toujours dévotes à la dévotion de quelqu'un ou de quelque chose. Comment s'étonner d'y voir toujours étaler tant de demi-égoïsme, d'égoïsme inavoué et hypocrite? Les membres des parlements ne peuvent franchir les limites que leur trace la charte, la volonté royale, etc. Dépasser ces limites ou tenter de les dépasser serait empiéter. Quel homme fidèle à ses devoirs oserait outrepasser sa mission en mettant en première ligne lui, ses convictions ou sa volonté? Qui serait assez immoral pour se faire valoir et pour imposer son individualité au risque de faire crouler le corps auquel il appartient et tout le reste avec lui? On se tient respectueusement dans les limites de ses droits, et il faut bien. D'autre part, qu'on reste dans les limites de ses forces, personne ne pouvant plus qu'il ne peut. Que ma force ou mon impuissance soit mon seul frein, et que mandat, mission, vocation ne soient que des dogmes qui m'entravent? Qui pourrait souscrire à une doctrine d'un aussi audacieux nihilisme? Pas moi, en tout cas, je suis un citoyen légal. La bourgeoisie se reconnaît à ce qu'elle pratique une morale étroitement liée à son essence. Ce qu'elle exige avant tout, c'est qu'on ait une occupation sérieuse, une profession honorable, une conduite morale. Le chevalier d'industrie, la fille de joie, le voleur, le brigand et l'assassin, le joueur, le bohème sont immoraux. Et le brave bourgeois éprouve à l'égard de ces gens sans mœurs la plus vive répulsion. Ce qui leur manque, que donne un commerce solide, des moyens d'existence assurés, des revenus stables, etc. Comme leur vie ne repose pas sur une base sûre, ils appartiennent au clan des individus dangereux, au dangereux prolétariat. Ce sont des particuliers qui n'offrent aucune garantie et n'ont rien à perdre et rien à risquer. La famille ou le mariage, par exemple, lie l'homme et ce lien le case dans la société et lui sert de garant. Mais qui répond de la courtisane ? Le joueur risque tout son avoir sur une carte, il ruine lui et les autres, pas de garantie. On pourrait réunir sous le nom de vagabond tous ceux que le bourgeois tient pour suspects, hostiles et dangereux. Tout vagabondage déplaît d'ailleurs aux bourgeois, et il existe aussi des vagabonds de l'esprit qui, étouffant sous le toit qui abritait leur père, s'en vont chercher au loin plus d'air et plus d'espace. Au lieu de rester au coin de l'âtre familial, à remuer les cendres d'une opinion modérée, au lieu de tenir pour des vérités indiscutables ce qui a consolé et apaisé tant de générations avant eux, ils franchissent la barrière qui clôt le champ paternel et s'en vont, par les chemins audacieux de la critique, où les mène leur indomptable curiosité de douter. Ces extravagants vagabonds rentrent, eux aussi, dans la classe des gens inquiets, instables et sans repos que sont les prolétaires, et quand ils laissent soupçonner leur manque de domicile moral, on les appelle des brouillons, des têtes chaudes et des exaltés. Tel est le sens étendu qu'il faut attacher à ces mots de prolétariat et de paupérisme. Combien on se tromperait si l'on croyait la bourgeoisie capable de désirer l'extinction de la misère, du paupérisme, et de consacrer à ce but tous ses efforts. Rien au contraire ne réconforte le bon bourgeois comme cette conviction incomparablement consolante qu'un sage décret de la Providence a réparti une bonne fois et pour toujours les richesses et le bonheur. La misère qui encombre les rues autour de lui ne trouble pas le vrai citoyen au point de le solliciter à faire plus que de s'acquitter envers elle, comme en lui jetant l'aumône ou en fournissant le travail et la pitance à quelques braves garçons laborieux. Mais il n'en sent que plus vivement combien sa paisible jouissance est troublée par les grondements de la misère remuante et avide de changement, par ces pauvres qui ne souffrent et ne peinent plus en silence, mais qui commencent à s'agiter et à extravaguer. Enfermez le vagabond, jetez le perturbateur dans les plus sombres oubliettes, il veut attiser les mécontentements et renverser l'ordre établi. Tuez, tuez ! Mais justement, ces troubles faits font à peu près le raisonnement suivant. Les bons bourgeois s'inquiètent peu de qui les protège, eux et leurs principes. Roi absolu, roi constitutionnel ou république, leurs sont bons, pourvu qu'ils soient protégés. Et quel est leur principe ? Ce principe dont ils aiment toujours le protecteur ? Ce n'est pas le travail, ce n'est pas non plus la naissance. Mais c'est la médiocrité, le juste milieu, un peu de travail et un peu de naissance, en deux mots, un capital qui produit des intérêts. Le capital est ici le fond, la mise, l'héritage, naissance. L'intérêt est la peine prise pour faire valoir, travail. Le capital travaille. Mais pas d'excès, pas d'ultra, pas de radicalisme. Évidemment, il faut que le nom, la naissance, puisse donner quelque avantage, mais ce ne peut être là qu'un capital, une mise de fonds. Évidemment, il faut du travail, mais que ce travail soit peu ou point personnel, que ce soit le travail du capital et des travailleurs asservis. Lorsqu'une époque est plongée dans une erreur, toujours les uns bénéficient de cette erreur, tandis que les autres en pâtissent. Au Moyen-Âge, l'erreur universellement répandue parmi les chrétiens était que l'Église, toute puissante, doit être sur terre la surindentante et la dispensatrice de tout bien. Les ecclésiastiques admettaient cette vérité, tout comme les laïcs. La même erreur était également ancrée chez tous. Mais le bénéfice, la puissance, était pour les prêtres, et le dommage, l'asservissement pour les laïcs. Le malheur, dit-on, rend sage. Aussi les laïcs assagis finirent-ils par ne plus admettre cette vérité du Moyen-Âge. Il en est exactement de même pour la bourgeoisie et le prolétariat. Bourgeois et ouvriers croient à la réalité de l'argent. Ceux qui n'en ont pas sont aussi pénétrés de cette réalité que ceux qui en ont, les profanes que les clercs. L'argent régit le monde, est la tonique de l'époque bourgeoise. Un gentilhomme sans le sou et un travailleur sans le sou sont des mœurs de faim, également sans valeur politique. La valeur ne va pas sans les valeurs. L'argent seul la donne, naissance et travail n'y peuvent rien. Ceux qui possèdent gouvernement, mais l'État élit parmi les non-possédants ses serviteurs et leur distribue avec une sage économie quelques sommes, traitements, appointements. Pour gouverner en son nom, il en fait ses régisseurs. Je reçois tout de l'État. Puis-je avoir quelque chose sans la permission de l'État? Non, tout ce que je pourrais avoir ainsi, il me l'enlève dès qu'il s'aperçoit que les titres de propriété me font défaut. Tout ce que je possède, je le dois à sa clémence. C'est uniquement là-dessus, sur les titres, que repose la bourgeoisie. Le bourgeois n'est ce qu'il est que grâce à la bienveillante protection de l'État. Il aurait tout à perdre si la puissance de l'État venait à s'effondrer. Mais quelle est la situation de celui qui n'a rien à perdre dans cette banqueroute sociale du prolétaire? Comme tout ce qu'il a et ce qu'il pourrait perdre se chiffre par zéro, il n'a pour ce zéro nul besoin de la protection de l'État. Il ne pourrait au contraire qu'y gagner si cette protection venait à manquer aux protégés. Aussi, celui qui ne possède pas considère-t-il l'État comme une puissance tutélaire de ceux qui possèdent. Cet ange gardien des capitalistes est un vampire qui lui suce le sang. L'État est un État bourgeois, c'est le statut de la bourgeoisie. Il accorde sa protection à l'homme non en raison de son travail, mais en raison de sa docilité, loyalisme, suivant qu'il use des droits que l'État lui accorde en se conformant à la volonté, autrement dit aux lois de l'État. Le régime bourgeois livre les travailleurs aux possesseurs, c'est-à-dire à ceux qui détiennent quelques biens de l'État, et toute fortune est un bien de l'État, appartient à l'État et n'est donnée qu'en fief à l'individu, et particulièrement à ceux entre les mains desquels est l'argent, aux capitalistes. L'ouvrier ne peut tirer de son travail un prix en rapport avec la valeur qu'a le produit de ce travail pour celui qui le consomme. Le travail est mal payé. Le plus gros bénéfice en va aux capitalistes. Mais bien payé, et plus que bien payé, sont les travaux de ceux qui contribuent à relever l'éclat et la puissance de l'État, les travaux des hauts serviteurs de l'État. L'État paie bien pour que les bons citoyens, les possesseurs, puissent impunément payer mal. Il s'assure, en les payant bien, la fidélité de ses serviteurs et fait d'eux, pour la sauvegarde des bons citoyens, une police. À la police appartiennent les soldats, les fonctionnaires de tout acabit, juges, pédagogues, etc. Bref, toute la machine de l'État. Les bons citoyens, de leur côté, lui paient sans faire la grimace de gros impôts afin de pouvoir payer d'autant plus misérablement les ouvriers à leur service. Mais les ouvriers ne sont, en tant qu'ouvriers, pas protégés par l'État. En tant que sujets de l'État, ils ont simplement la cojouissance de la police qui leur assure ce qu'on appelle une garantie légale. Aussi, la classe des travailleurs reste-t-elle une puissance hostile vis-à-vis de cet État. L'État des riches, le royaume de la bourgeoisie. Leur principe, le travail, n'est pas estimé à sa valeur, mais exploité. Il est le butin de guerre des riches, de l'ennemi. Les ouvriers disposent d'une puissance formidable. Qu'ils parviennent à s'en rendre bien compte et se décident à en user, rien ne pourra leur résister. Il suffirait qu'ils cessent tout travail et s'approprient tous les produits, ces produits de leur travail, qu'ils s'apercevraient être à eux comme ils viennent d'eux. Tel est d'ailleurs le sens des meutes ouvrières que nous voyons éclater un peu partout. L'État est fondé sur l'esclavage du travail. Que le travail soit libre et l'État s'écroule,